les podcasts de Radio Vatican.
La famille humaine a le devoir d'aider chaque personne à être libérée de la pauvreté et de la faim. C'est le tweet publié par le pape François en cette journée mondiale du refus de la misère. Une journée annuelle reconnue par les Nations Unies et instituée en 1987 par le père Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Carmonde. La misère n'est pas une fatalité, affirmait-il. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. 30 ans plus tard, le mouvement ATD Carmonde poursuit avec conviction sa lutte contre la misère et la pauvreté, fort de l'intuition prophétique de son fondateur. Cette lutte est même devenue un objectif mondial. En 2015, plus de 180 chefs d'État se sont ainsi engagés à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, en adoptant une feuille de route ambitieuse pour le développement durable d'ici à 2030. Mais au-delà des mesures et des politiques, au-delà des chiffres et des statistiques, ATD Carmonde rappelle combien restent fondamentales les valeurs de solidarité, de respect et de dignité. Les personnes défavorisées ont des choses à nous dire et doivent être pleinement impliquées dans la lutte contre la pauvreté. Nous vous proposons le regard de Jean Tonglet, volontaire au sein d'ATD Carmonde depuis une quarantaine d'années. Il est responsable pour les relations du mouvement avec le Saint-Siège.
Ce qui définit une situation de misère par rapport à des situations de pauvreté ou de précarité plus relatives, c'est toujours la même chose. C'est ce que le père Joseph disait déjà quand il a créé le mouvement et qu'il redisait il y a 30 ans. La misère commence là où commence la honte. La honte qui vient de l'exclusion, qui vient du sentiment d'être considéré comme un homme de moindre qualité, un homme qu'on considère, comme le dit souvent le pape François, qu'on considère comme un déchet de l'humanité. Et c'est là que c'est quand ce sentiment prend les gens à la gorge que vraiment on peut parler de misère. Après, ça se décline évidemment matériellement de façon très différente. C'est pas la même chose dans un quartier de Paris que à New York, c'est pas la même chose à Madagascar, c'est pas la même chose en Haïti. On a des phénomènes de malnutrition, par exemple, qui sont beaucoup plus prégnants dans certaines régions du monde, et des problèmes de personnes sans-abri qui le sont davantage dans des grandes capitales occidentales. Voilà. Mais la misère commence, pour moi, vraiment toujours là où les gens ont ce sentiment d'être mis sur le côté, mis sur la touche, parqués dans des quartiers spécifiques, dans des zones spécifiques, et on n'attend rien d'eux. Finalement, c'est ça. Et ils sont totalement considérés comme totalement inutiles, et même leur souffrance est considérée comme inutile, ne laisse pas de traces dans l'histoire de l'humanité. On oublie, on ne les voit pas, ils sont invisibles.
Depuis 30 ans, j'imagine qu'on peut constater une certaine évolution par rapport à cette situation globale de la misère, de la pauvreté. Est-ce qu'il y a des situations qui se sont améliorées? Est-ce qu'il y a au contraire des situations qui se sont détériorées, précarisées? Est-ce qu'il y a de nouvelles formes de pauvreté et de misère?
Alors c'est toujours difficile de faire un bilan parce qu'on a tendance à voir la souffrance qui se perpétue, qui continue, l'exclusion qui se perpétue. Alors il y a eu des progrès, c'est sûr qu'il y a dans un certain nombre de pays, il y a eu des législations nouvelles qui ont été adoptées, il y a eu une volonté politique qui s'est parfois exprimée de mettre en œuvre des plans pour lutter contre la pauvreté. Au niveau international, on vient quand même de faire un pas en avant assez important avec l'adoption des objectifs du développement durable, qui sont quand même très différents de ce qui avait été adopté en l'an 2000, ce qu'on appelait les objectifs de développement du millénaire. Dans les objectifs du millénaire, on parlait de réduire la pauvreté de moitié. Et quand nous avons expliqué ça en rentrant des Nations Unies aux familles pauvres membres du mouvement, ils nous disaient c'est sûr qu'on ne sera pas dans les 50% qui sortiront de la pauvreté. Nous. Elles en étaient absolument persuadées qu'un critère comme ça ferait qu'elles resteraient sur le côté. Cette année, enfin il y a 2 ans plutôt, dans le cadre de l'adoption des objectifs du développement durable, on a affirmé la volonté d'éradiquer la pauvreté dans son ensemble. Et on a adopté comme slogan un slogan qui dit « ne laissez personne de côté, ne laissez personne en arrière ». Et ça, c'est un slogan qui est très important pour nous, qu'on a pu obtenir grâce à l'appui d'autres partenaires, d'autres ONG, des syndicats au niveau mondial. Mais c'est aujourd'hui repris par le secrétaire général de l'ONU dans son message pour la journée d'aujourd'hui, pour la journée du refus de la misère. Il a souligné l'importance de ce slogan. Et donc, il faut maintenant évidemment que ce soit plus qu'un slogan. Il faut que ce soit une volonté qui soit mise en œuvre, que quand on met en œuvre un programme, on s'inquiète de savoir qui on a atteint et qui on n'a pas atteint, et qu'on mette immédiatement en place des mesures pour atteindre ceux qui sont restés sur le côté, et que ce soit un exercice permanent de recherche de ceux qu'on a tendance à laisser sur le côté. Si on fait ça, on est sûr qu'on va avancer. Si on ne le fait pas, on est sûr qu'on va laisser les plus faibles à nouveau sur la touche, et on accroît ainsi leur pauvreté. Et donc, on peut dire qu'il y a eu des progrès. On sait aussi, malheureusement, que si au niveau mondial, les chiffres, si tant est que les chiffres sont crédibles, les chiffres montrent une certaine diminution de la pauvreté. On s'aperçoit aussi qu'il y a quand même une aggravation des faits de la vie de ceux qui vivent dans la pauvreté, et une nette augmentation aussi de l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, on peut considérer que voilà, on est dans une situation intermédiaire. On a décliné des objectifs. Maintenant, il faut vraiment les mettre en œuvre. Il faut s'en donner les moyens.
Alors, vous évoquez une situation intermédiaire, une amélioration parfois, et vous parlez d'une détérioration de la vie de ceux qui vivent dans la misère. C'est une chose que vous constatez, vous qui allez sur le terrain, à la rencontre de familles pauvres, notamment ici à Rome?
Alors, détérioration, oui, dans la mesure où la crise économique qui touche évidemment beaucoup plus de populations que uniquement les plus pauvres, mais les touche plus particulièrement encore eux, parce qu'évidemment, le peu d'emplois précaires qui étaient éventuellement à leur disposition, eh bien, ils sont recherchés par d'autres catégories de la population qui en ont besoin eux aussi, parce qu'ils ont été précipités par la crise économique, dans le chômage, etc. Donc la situation des plus pauvres en Italie, en France, en Belgique, un peu partout, ne s'est pas améliorée avec la crise. Et la reprise économique qu'on voit dans un certain nombre de pays n'entame pas la masse de ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté. Certains autres en profitent, mais les plus pauvres ne profitent pas vraiment de cette relance-là. Ce qui a vraiment changé aussi, et ça me semble important de souligner, depuis 30 ans, et même depuis plus longtemps, on fête le 30e anniversaire de la journée, mais c'est aussi le 60e anniversaire de la création du mouvement des quarts mondes. Donc en fait, c'est pratiquement depuis 60 ans que les choses se sont graduellement construites. Mais ce qui s'est construit, c'est qu'en face des institutions, en face de l'ONU, en face des institutions nationales, en face des institutions européennes, aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la misère et qui sont en mesure d'être des partenaires des institutions, qui sont en mesure de dialoguer avec les institutions, de transmettre aux institutions leur propre expérience, leur propre savoir. Et ça, c'est un phénomène nouveau qu'on doit en grande partie au Père Joseph, parce qu'en fait, le Père Joseph avait cette idée-là en arrivant à Noisy-le-Grand, dans ce bidonville. Il s'est dit, mais ces gens ne s'en sortiront jamais. Ils ne s'en sortiront jamais tout seuls, donc il faut créer un mouvement, il faut créer un volontariat qui partage la vie de ces personnes, mais il faut, dans le même élan, avec ces familles, avec ces gens qui sont dans la misère, il faut monter les marches de l'ONU, il faut monter les marches de l'Élysée, il faut monter les marches du Vatican, du Conseil de l'Europe, du Bureau international du travail, etc. Et ça, aujourd'hui, on le fait, on l'a fait et on le refera. Nous étions ce matin ici à Rome avec une délégation à la Chambre des députés. C'était une première. On avait rencontré la présidente il y a 2 ans, mais là, on rencontrait un groupe de députés. Parce que l'expertise de ces personnes qui vivent dans la pauvreté est absolument indispensable si on veut prendre des mesures et des politiques qui atteignent vraiment leur cible. On ne peut pas simplement s'en remettre à l'expertise des experts habituels, dont on a besoin. On a besoin du savoir de l'université, on a besoin du savoir de l'Institut de statistique, on a besoin du savoir des sociologues, etc. On a besoin aussi du savoir des travailleurs sociaux, de ceux qui sont au plus près de ces populations, mais on a besoin du savoir de vie et d'expérience de ces populations. Il y a des choses que eux savent et que les autres ne savent pas. Et ce qui a été le grand progrès qui a été fait ces 30 dernières années, notamment à travers cette journée, c'est de rendre visible aux yeux des institutions et aux yeux de l'opinion publique, l'existence d'un partenaire qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on le prenne au sérieux et qu'on se mette à son écoute et qu'on le considère vraiment comme un partenaire actif à inviter dans des tables de dialogue dont nos sociétés disposent.
Alors, je voudrais une église pauvre pour les pauvres. Ces mots du pape François qu'il a prononcés au tout début de son pontificat restent comme un leitmotiv, une marque typique qu'il a voulu imprimer justement à son pontificat. Est-ce que vous constatez une continuité véritablement entre le père Brzezinski et le pape François sur ce sujet central?
Oui, bien sûr, il y a une continuité, une familiarité absolument étonnante. étonnante et forte. Je crois que le premier livre que le père Joseph a publié en 1983 est titré « Les pauvres sont l'Église ». Je pense que le pape François pourrait dire exactement la même chose. Les pauvres sont l'Église. Ce qui veut dire, si les pauvres ne sont pas dans l'Église, ne sont pas membres de l'Église, eh bien, d'une certaine manière, l'Église n'existe plus. Elle disparaît, elle se désagrège, parce qu'ils en sont la pierre angulaire. Donc oui, il y a cette continuité. Et par rapport à ce qu'il a dit lors de 3 jours après son élection, une Église pauvre pour les pauvres, je pense qu'il est allé depuis déjà beaucoup plus loin. Peut-être qu'il avait déjà ça en tête, sans doute, très certainement, à l'époque où il a dit cette phrase-là, mais dans un discours notamment au mouvement populaire, en octobre ou novembre 2016, il a parlé des politiques sociales, il a dit « il y a des politiques sociales pour les pauvres, mais c'est déjà très difficile de faire des politiques sociales avec les pauvres, et encore plus difficile de les faire à partir d'eux, et en utilisant, en s'appuyant sur leur intelligence ». Et en fait, c'est ça. Nous, notre rêve, notre combat, c'est pas simplement un monde ou une politique ou une église ou une association ou je ne sais pas quoi pour les pauvres, mais avec les pauvres et à partir d'eux. C'est-à-dire en les considérant comme des partenaires indispensables, des gens dont on va solliciter non seulement le témoignage qui va certainement nous émouvoir, etc., mais ça, les gens, ils en ont marre de faire des témoignages. Ce qu'ils ont envie de partager, c'est leur analyse, leur proposition, leur intelligence.
D'être impliqué.
Et d'être impliqué et d'avoir une influence, d'une certaine manière, sur les décisions qui les concernent et sur l'avenir de notre société, parce qu'il ne faudrait pas les enfermer non plus uniquement dans la lutte contre la pauvreté. Ils nous disent des choses sur la famille, ils nous disent des choses sur Dieu, ils nous disent des choses sur la génétique, par exemple. Ils ont des idées là-dessus. Les gens pauvres, ils ont aussi leurs idées là-dessus. Ce n'est pas réservé uniquement à d'autres. Interrogeons-les. Ce qui suppose, évidemment, un énorme investissement à leur côté. Parce qu'il ne suffit pas d'aller dans un quartier et puis de tendre un micro pour que les gens s'expriment. Il faut créer toute une confiance, c'est tout un processus qui est très long, ça met parfois des mois, voire des années, avant qu'une personne se sente capable de dire « mais moi j'ai une parole et je peux parler ». C'est une expérience qui bouleverse la vie d'une personne. Quand on lui a dit toute sa vie « eh bien toi tu n'as rien à dire, tu n'es pas intelligente, tu n'es pas intelligent, tais-toi, fais ce qu'on te dit, etc. » Il faut parfois des années pour inverser ce processus.
Est-ce que pour cette 30e édition de cette journée, est-ce que vous désirez attirer l'attention sur une situation en particulier ?
Il me semble qu'une des choses dont on est peu conscient, notamment en Europe, c'est qu'il y a dans nos pays respectifs de plus en plus de gens qui disparaissent des écrans radars. Alors ça peut être lié à des problèmes d'absence de logement, mais aussi d'absence de domicile, d'absence de résidence. Et on a aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, des gens comme ça qui, dans le fond, n'apparaissent plus. Ils disparaissent même de nos statistiques. Et ça, c'est dramatique. Ça devient de véritables citoyens fantômes qui ne comptent plus pour personne. Et ce sont des gens du pays. Bon, bien sûr, il y a aussi des réfugiés des immigrés qui les rejoignent dans les mêmes conditions et qui partagent ces mêmes conditions d'invisibilité. Mais il y a aussi des nationaux dans chacun de nos pays qui tombent dans cette situation-là, et je pense qu'on n'en est absolument pas conscient aujourd'hui dans nos pays européens.
Des propos recueillis par Manuela Affigie.